8h48 dans Boulevard Higgins le matin. Félicitations à Jean-François Caron qui gagne son passeport double pour toute la durée du Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile qui a lieu du 21 au 24 août. Pour plus d'infos ou vos laissez-passer, ben c'est le festivaldubûcheux.com. On a beaucoup parlé de culture québécoise dans la dernière demi-heure avec le chroniqueur Rémi Villemur. Ben là, on va se tourner vers l'histoire du Québec. C'est Dave Turcotte qu'on a au bout du fil. Dave Turcotte, qui est le créateur du Musée virtuel d'histoire politique du Québec. Il est aussi directeur de bureau de la députée du Bloc québécois, Christine Normandin, et un ancien député du Parti québécois dans Saint-Jean. Monsieur Turcotte, bonjour.
Bonjour.
Le Musée virtuel d'histoire politique du Québec, dont vous êtes le créateur, ça mange quoi en hiver? On trouve ça où? On trouve quoi là-dessus?
Bien, on trouve ça sur Internet, au politiquequebec.com, premièrement. Moi, j'ai toujours été collectionneur d'objets politiques, là, un peu fou, là, quand j'étais jeune. Et je suis issu d'une famille de collectionneurs dans plein de domaines, fait que moi, c'était la politique qui m'a attiré. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est ça. Et avec la pandémie, bon, on pouvait plus rien faire. Donc je me suis dit, comment je peux m'occuper pour préserver ma santé mentale? Donc, j'ai commencé à numériser, prendre en photo mes objets, numériser mes documents, les dépliants électoraux que j'avais, les macarons, etc. Et je me suis dit, ben, je pourrais rendre ça accessible sur Internet pour que, si ça intéresse des gens, puis que les gens veulent fouiller puis en savoir un peu plus sur l'histoire politique du Québec. Et je me suis dit, bon, ben, je peux pas juste mettre des images comme ça, là. Tu sais, le monde va dire, ben, ça a l'air d'un catalogue, là. Donc, j'ai commencé à composer des textes, faire des recherches, etc. Et là, c'est là que l'idée de faire un musée virtuel est venue avec l'expérience. Et depuis, là, dans quelques jours, quelques semaines, ça fera mon 5e anniversaire de création du musée. Je suis rendu à plus d'une quinzaine d'expositions là, sur différents premiers ministres du Québec, différentes élections. Différentes thématiques, dont qu'est-ce qu'on peut visiter au Québec qui a un lien avec la politique, pour le tourisme, les femmes en politique, le drapeau, les emblèmes, etc. Donc, c'est principalement des objets de ma collection, mais aussi des collections de d'autres amis que j'ai ou d'autres réseaux de différentes tendances et aussi de l'Assemblée nationale. Là, ayant été ancien député, bon, ben j'ai pu accès là, à aller dans les fonds des autres députés pour partager certains artefacts sur l'histoire politique.
À part vous, ça intéresse-tu vraiment le monde, l'histoire politique du Québec? J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est sexy aux yeux de la population en général. Puis je suis allé faire un tour sur le site. Vous parliez notamment d'un onglet sur les premiers ministres. Je trouve ça super intéressant. Mais en général, avez-vous beaucoup d'intérêt pour votre musée virtuel?
J'ai été très surpris. Effectivement, au début, je me suis dit que ça va être plus un projet pour moi, ma passion à moi, puis que ça intéressera peut-être pas grand monde, mais au début, lors de la fondation, il y a eu vraiment un enthousiasme et un buzz. Là, ma page Facebook n'a pas commencé au début, mais assez rapidement, là, elle a pris de l'ampleur. Et depuis, je reçois beaucoup de demandes pour organiser des vraies expositions. Donc là, c'est sur le web, mais en faire des vraies, comme l'exposition sur Jacques Parizeau. J'ai organisé une vraie exposition qui a été présentée à l'Assemblée nationale. Elle a été présentée par la suite à l'Assomption dans sa circonscription. J'ai travaillé cette année sur une exposition sur Jean Lesage qui a aussi eu quelques présentations. J'ai un autre... des gens d'une autre région qui m'ont approché pour faire une autre exposition sur un autre premier ministre là, qui sera rendu public dans les prochaines semaines, mais l'exposition sera pour 2026. Donc, oui, il y a de l'intérêt. Aux États-Unis, moi, je visite beaucoup les États-Unis parce que j'aime pas beaucoup l'avion. Donc, quand je prends des vacances, c'est souvent là que j'allais, sauf maintenant. Et j'ai découvert tout ce qui est les musées présidentiels, les maisons de présidents, c'est vraiment impressionnant le réseau de patrimoine politique aux États-Unis. Et ça fonctionne. Là. Il y a des gens qui vont toujours visiter ça. Puis je me dis, ben au Québec, on en a quelques-unes, des maisons de premier ministre qu'on peut visiter ou quelques lieux. Et il y a quand même des visiteurs, il y a des gens. Mais moi, je pense que tant qu'il n'y a pas d'offres, c'est difficile de créer une demande quand il n'y a pas d'offre.
Vous, pour les auditeurs qui veulent aller voir le musée virtuel de l'histoire politique du Québec, l'adresse est facile à retenir, c'est politiquequebec en un seul mot.com et c'est vraiment un super beau site, M. Turcotte. Moi, je suis impressionnée chaque fois que je le visite par la qualité de l'information et la quantité d'informations. On peut notamment voir là, que la répartition des premiers ministres selon leur parti politique, surprenamment pour ceux qui connaissent moins l'histoire moins contemporaine du Québec, mais il y a eu 12 premiers ministres du Parti libéral, 8 premiers ministres du Parti conservateur et 6 premiers ministres du Parti québécois. Ça peut surprendre les plus jeunes qui ont l'impression que le Parti conservateur est quelque chose de très récent dans l'histoire du Québec. Parlez-nous justement là, de cette année marque un anniversaire particulier concernant justement Jacques Parizeau.
Ben effectivement, c'est son 10e anniversaire de décès en juin dernier. Donc, quand il y a des anniversaires, je tente là, de faire certaines commémorations selon mes moyens, parce que moi, je suis pas subventionné, là, je reçois pas de subvention du gouvernement ou autre pour faire tout ça. Là. C'est de ma poche que ça sort. Puis je reçois beaucoup de dons, d'artefacts de gens, des gens qui, bon, des personnes âgées qui ont milité dans des partis, peu importe lequel, puis tout ça, puis qui là, ils disent je suis rendu à un certain âge, je veux m'assurer que ça se perde pas. D'ailleurs, c'est ça un peu la pandémie. Je m'apercevais que des gens qui faisaient du ménage, les gens avaient du temps, fait qu'ils faisaient du ménage, mais ils jetaient. Là, on veut se débarrasser, on veut vider. Mais là, c'est quand même une partie de notre histoire qui part. Là, fait que c'est pour ça que je me dis, tant aussi longtemps que le gouvernement ne fait pas quelque chose ou qu'un organisme officiel ne fait pas quelque chose, je me suis dit, avec mes moyens, avec mes ressources, je vais essayer au moins de préserver ce que je peux. L'exposition de Jacques Parizeau qui est sur mon musée et je pense ben c'est une de mes c'est ma dernière exposition qui a été rendue publique et c'est sûr que mes premières quand il y a 5 ans c'est pas la même qualité qu'aujourd'hui là parce que c'est quand même moi qui fais la programmation du site qui fait la numérisation qui fait la recherche qui fait la composition des textes la révision la promotion etc là fait que je fais tout là dans je suis seul dans ce projet là donc c'est sûr que vous me parliez des conservateurs j'ai une exposition sur le premier ministre Flynn qui est le dernier premier ministre conservateur québécois ben c'est sûr que elle n'est pas la même ampleur que celle de M. Parizeau. Premièrement parce que, bon, M. Flynn date quand même d'une autre époque. Fait que c'est plus difficile d'avoir accès à des artefacts et tout ça. Mais quand même intéressante. Puis c'est ça mon objectif, c'est de faire connaître des premiers ministres méconnus du public. Parizeau, c'est une des expositions d'un premier ministre plus connu, plus contemporain. Mais ce qui est intéressant de l'exposition de Jacques Parizeau, c'est que ça nous permet de couvrir aussi de l'Union nationale, parce que M. Parizeau a servi sous Antonio Barrette, a servi sous Daniel Johnson, sous Jean-Jacques Bertrand, qui sont 3 premiers ministres de l'Union nationale. Il a servi aussi sous Jean Lesage, premier ministre libéral, avant de devenir indépendantiste là, dans la fin des années 60. Et là, il a servi sous il a servi sous René Lévesque, et avant d'être dans sa propre équipe, donc quand lui-même est devenu premier ministre. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, de voir les liens entre les partis, etc., puis des fois, il y a des gens qui ont des chemins plus tortueux pour se rendre à la fin. Donc, j'aime toujours avoir une particularité, une exposition. Et celle-là, ben c'est quand même intéressant de voir son cheminement avant de devenir premier ministre.
C'est intéressant parce que pour plusieurs, tu sais, Jacques Parizeau, oui, ça a été le premier ministre qui a mené le Québec à son 2e référendum. Oui. Ça a été la fameuse phrase de l'argent puis le vote ethnique. Pour bien du monde... Tu demandes d'écrire, de parler de Jacques Parizeau, ben ça va être ça, puis ça va pas mal s'arrêter là. Est-ce qu'on connaît assez nos grands hommes politiques au Québec?
Malheureusement, je vais être obligé de dire non. Puis il y a peut-être une réflexion collective à faire, là. Est-ce que, bon, la société, l'école, etc., rend justice à notre histoire, puis tout ça, c'est une autre histoire, mais je me dis... J'essaie par mon musée. Moi, c'est sûr qu'à la base, j'écris pas des livres. C'est pas des biographies puis tout ça que je fais. c'est vraiment mon plaisir, c'est de montrer des artefacts. Donc, soit des objets, des photos, des macarons, des affiches, etc. Et à partir de ces objets-là, je raconte l'histoire. Fait que pour M. Parizeau, ben, c'est un peu ça. T'sais, j'ai quelques objets par rapport à, en lien avec la Révolution tranquille. Donc, ça me permet de parler que M. Parizeau a un lien avec la nationalisation de l'électricité. J'ai été surpris d'apprendre qu'il y avait eu un rôle dans la commission parents qui a créé par la suite le ministère de l'Éducation, puis tout le réseau des cégeps, etc. La Société générale de financement, la Caisse de dépôt et de placement, la Régie des rentes. C'est quand même beaucoup de réalisations qu'on voit encore les impacts économiques, puis qui fait la présence du Québec, puis la diversité du Québec par rapport à d'autres États. Mais c'est M. Parizeau a toujours eu un rôle à jouer dans toutes ces réalisations-là. Donc, il n'était pas seul, mais c'est un des maillons de cette chaîne-là. Donc, c'est ça qui est intéressant. Puis c'est ça que j'aime. C'est après avoir fait une exposition sur un premier ministre ou sur un autre thème, moi-même, j'ai appris beaucoup. Fait que je me dis, déjà là, je suis content. Ça me rentabilise mes heures d'investissement dans le travail. Mais tant mieux quand les gens apprécient. Puis merci beaucoup pour vos bons mots. C'est toujours... toujours encourageant pour la suite.
Vous êtes un passionné de politique. Vous avez été pendant près de 10 ans député à l'Assemblée nationale avec le Parti québécois. Vous travaillez encore en politique aussi. Vous êtes directeur du bureau de circonscription de Christine Normandin, députée de Saint-Jean, la Chambre des communes. Donc, vous êtes maintenant impliqué en politique fédérale. Dans votre site, qui est très, très riche, moi, j'y vois une connexion directe avec notre dernier invité, Rémi Villemur, où on parlait de culture québécoise. On parlait des jeunes qui s'intéressent ou se désintéressent à la culture québécoise et on associe souvent cette culture à la télévision, au téléroman, à la musique en français, mais moins à la politique. Vous qui êtes un passionné de politique, qui travaillez là-dedans depuis longtemps, qui êtes bien investi au point d'en faire un musée, puis je suis bien contente d'apprendre, bien contente, contente et pas contente, là, mais de voir que c'est une initiative personnelle et que vous n'avez pas été subventionné pour ça. Je suis contente dans le sens où j'ai toujours été contre les subventions. Mais en même temps, je me dis, c'est incroyable que ce site-là soit le fruit du travail d'une seule personne passionnée par la politique qui fait ça sur son temps libre bénévolement. C'est un outil fort intéressant. Avez-vous l'impression qu'on doit politiser davantage les jeunes? Et je lisais là, sur une de vos pages, l'élection 1970 a été une élection de plusieurs premières. Il y avait eu 84,2% des électeurs inscrits à la liste électorale qui sont allés voter. Et en 1976, 85% de taux de participation. On est loin d'avoir ces scores-là maintenant. Est-ce que ça indique qu'on s'est détourné un peu de la politique au Québec?
Possible. Sûrement une partie du cynisme et autres. Peut-être aussi la capacité de rêver puis de voir les actions concrètes qu'on peut on peut faire changer par l'implication politique ou du moins d'aller voter. Je suis quand même surpris de voir le nombre de jeunes qui s'intéressent à la politique, mais aussi à l'histoire politique, là, parce que je regardais récemment les statistiques là, de ma page Facebook. Et puis le groupe le plus actif, c'est sûr, bon, on pourrait dire que les personnes âgées sont peut-être moins sur Facebook, quoique, avec la pandémie, on a vu quand même plusieurs baby-boomers s'ajouter sur Facebook, etc. Oui. Mais beaucoup de jeunes actifs, puis tout ça, puis même beaucoup de jeunes qui m'écrivent, qui me posent des questions, etc. Aussi des professeurs qui, dans leur classe, utilisent certaines de mes expositions parce qu'il y a beaucoup d'images, beaucoup d'illustrations. Donc, pour pouvoir rendre plus accessible l'histoire du Québec là pour des plus jeunes publics. Donc beaucoup de professeurs dans des écoles secondaires mais aussi des cégeps. Puis j'ai été surpris de voir que mon musée était dans certains plans de cours d'université.
Ah oui.
Donc c'est quand même je trouve ça quand même intéressant. Mais c'est ça. Donc je pense que oui, c'est jamais mauvais d'inciter les gens, de convaincre les gens de s'intéresser davantage à la politique, mais c'est facile de dire ça, mais comment le faire? Moi, je pense que si mon initiative aide à ça, parce que je présente l'histoire politique ou l'histoire du Québec d'une façon différente de ce qu'elle a été présentée, ben tant mieux si j'ai un bon succès. Puis j'organise dans plusieurs régions du Québec, là, j'ai tenu des conférences. Moi, ce que je fais, c'est que j'amène des objets pour un chouon, Les gens se promènent, regardent les objets, les artefacts, me posent des questions, puis après ça, je fais une conférence soit sur un premier ministre ou sur les premiers ministres. Puis là, je fais certaines anecdotes avec mon collègue Alain Lavigne, qui a publié beaucoup sur le marketing politique par des objets lui aussi. Puis les gens sortent de là, puis ils me disent on a appris, on a ri, on s'est diverti. Fait que j'ai comme l'impression là, de présenter les choses d'une façon différente qui peut rejoindre des publics peut-être plus réfractaires au départ. Donc, tant mieux si ça a une conséquence pour améliorer notre démocratie.
Dave Turcotte, créateur du Musée virtuel d'histoire politique du Québec, directeur de bureau de la députée du Bloc québécois Christine Normandin et ex-députée du Parti québécois dans Saint-Jean, merci beaucoup pour votre temps ce matin.
Ça me fait plaisir.
Merci.
Bye bye. Bonne journée.
Au retour! Jasette qu'on attendait depuis tôt ce matin avec Alex Boissonneau, nouveau député du Parti québécois dans la circonscription d'Arthabasca. Boulevard 102.